Bien, donc on commence cette première session intitulée « À la croisée des chantiers », première partie, avec Christophe Becker, donc, qui a fait sa thèse à Paris 8 sur Genesis P. Orridge, qui est docteur en littérature donc, et qui enseigne dans le secondaire actuellement. Il travaille dans le projet Pind sur les comics et sur la chanteuse Ellie Medeiros. Voilà, je lui cède la parole. Comme les deux intervenants qui vont se succéder s'appellent tous les deux Christophe, on a décidé de grouper les questions à la fin des interventions. La logique, vous la comprendrez aisément. Ça sera plus simple aussi pour maîtriser le temps. Donc, Christophe, vous avez une vingtaine de minutes.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Christophe Becker. Solveig m'a demandé de résumer, de dire ce sur quoi je parlais, ce sur quoi je travaillais en ce moment. Donc j'ai fait ça, mais j'ai pas exactement fait ça en entier. J'ai essayé d'être punk en fait. Donc comme ça a été rappelé, moi je viens de la littérature, donc j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la littérature expérimentale, en particulier William Burroughs. Et les cyberpunk, donc en littérature, en science-fiction, c'est-à-dire des auteurs comme William Gibson. Donc en fait, avant de rencontrer Luc et Solveig, je m'occupais pas de musique ou presque pas. Enfin, je m'y intéressais par le biais de Genesis P. Orridge et de son groupe Topi. Et donc je me suis posé la question aujourd'hui en venant ici, puisque c'était une question qui était importante pour moi de me poser la question qu'est-ce que je faisais là en fait, tout simplement. Voilà. Donc j'ai toujours pas de réponse. Mais par contre, la question, à mon sens, était intéressante. Au moment où Solveig m'a posé cette question, j'étais en train de finir un livre d'Anna Arendt, en fait, qui revenait sur la naissance de l'existentialisme en France et en Allemagne. Et Anna Arendt parlait de Camus, parlait de Sartre, et essayait de définir ce que c'était que l'existentialisme en France et en Allemagne. Elle revenait sur le fait que c'était une doctrine qui voulait, une philosophie qui voulait que, en fait, la vie était absurde. Et que le fait de considérer soi-même que la vie est absurde est en fait un gigantesque pas dans le vide, et en même temps quelque chose d'extrêmement positif, puisque votre vie, vous êtes obligé, à travers un travail intellectuel, artistique sans doute, de devoir la construire et lui donner... sans doute un nouvel objectif et un nouveau cheminement. Quand Anna Arendt parlait de ces philosophes, elle disait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est des philosophes qui vont à l'encontre de ce qu'elle appelait l'esprit de sérieux, entre guillemets. Alors l'esprit de sérieux pour Anna Arendt, c'était le fait de voir toutes ces personnes que vous voyez tous les jours, et sans doute, peut-être qu'il y en a qui en font partie ici, moi le premier, des gens qui ont cet esprit de sérieux, c'est-à-dire ce sont ces professeurs qui estiment que... il n'y a pas grand-chose à part l'envie de professeur. C'est des gens qui acceptent et qui se sentent eux-mêmes validés par le fait qu'ils ont une fonction qui leur a été donnée par un cadre social. Ils acceptent cette fonction, ils embrassent cette fonction et ils ne sont rien d'autre que cette fonction. Anna Arendt dit l'intéressant chez ces philosophes, chez Jean-Paul Sartre, mais aussi chez les Allemands, c'est que justement ils vont réfuter cette idée de sérieux, d'esprit de sérieux. Et c'est des gens qui vont essayer d'avoir un recul sur ce qu'ils font, un recul sur leur travail, un recul sur leur discours, que ce soit un discours sociocritique, un discours politique, un discours artistique. Et en fait, je pense, mais j'ai toujours pas exactement la réponse, je pense que c'est ce qui m'a intéressé, entre autres, en venant travailler ici. C'est que ça m'a permis de travailler sur... des auteurs, des artistes, des musiciens, qui justement essaient d'éviter cet esprit de sérieux et qui essaient d'aller autre part. Alors cette année, pour commencer, j'avais travaillé dans le collectif punk sur la violence et j'avais travaillé sur Johnny Rotten. Et ça, c'est Batman qui décide qu'il déteste le punk, voilà, et qui s'engueule avec Robin dans la Batmobile. Donc c'était donc This Is Not a Love Song, c'était du détournement des médias télévisés par John Lydon. Il y avait quelque chose qui m'intéressait justement par rapport à cette lecture que j'avais pu faire d'Anna Arendt, c'était le personnage de Johnny Rotten, puisque John Lydon lui-même considère qu'il y a eu une construction du personnage de Johnny Rotten dans les années 70. Ce qui était intéressant dans ce travail, en tout cas pour moi, dans mes recherches, ça a été de voir la différence qu'il y avait entre quelqu'un comme Johnny Rotten et d'autres personnages, d'autres artistes, comme par exemple bon, David Bowie, qui est devenu Ziggy Stardust en 1972, ou alors le personnage d'Alice Cooper, qui a été créé en 1968. Ça a été pour moi l'intérêt de travailler sur qu'est-ce qui fait qu'un punk comme lui, comme Johnny Rotten, on en a parlé la dernière fois un peu avec Tim, qu'est-ce qui fait qu'il y a il y a quelque chose d'unique dans son travail, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose d'incroyablement puissant, de porteur et d'inspirant, je pense, dans son travail. Là non plus, j'ai pas de réponse. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est la recherche. La recherche, en fait, on n'a jamais de réponse, on a toujours de nouvelles questions. Donc tout va bien. On a vu des images tout à l'heure de ce qui s'était passé avec Bill Grundy en 1976, donc c'était le 1er décembre. C'était l'interview des Sex Pistols par Bill Grundy, donc, au moment où Queen a dû décommander. Et là, on voyait, je sais pas si on le voyait d'ailleurs très bien, puisqu'on n'est pas revenu dessus, mais il y avait ce personnage assez malfaisant de Bill Grundy, qui était quelqu'un de complètement saoul. Et puis il y avait ces jeunes gens qui étaient là et qui en fait étaient éméchés, eux aussi, mais qui finalement reprenaient, recadraient Bill Grundy avec une certaine violence, une certaine animosité, mais finalement qui était relativement normale, puisque le gros porc, comme on dit en ce moment en parlant de Weinstein, c'était pas les Sex Pistols, c'était pas Johnny Rotten, c'était pas les autres, c'était ce type complètement saoul qui essayait de faire du gringue à sous issue dans le fond de la salle. Et donc ce qui m'a intéressé, c'était justement d'étudier en quoi par rapport à la télévision, il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant. Et beaucoup plus puissant pour moi, ça passait entre autres par cette vidéo.
Beethoven, Mozart, Bach, Brahms,
really? What?
They're wonderful people.
Yes, they really turn us on.
Well, suppose they turn other people on.
That's just their tough shit.
It's what?
Nothing. Rude word. Next question.
No, no. What was the rude word?
Shit.
Really? Oh, good heavens. You frightened me to death. Yes. What about you girls behind?
He's like your dad, isn't he, this geezer?
Are you,
your granddad.
Are you worried or just enjoying yourself?
Enjoying myself.
Are you? Oh, that's what I thought you were doing.
I always wanted to meet you.
Would you really? We'll meet after, shall we?
Dirty sod.
Keep going. Go on. You got another 5 seconds. Say
you
something
dirty,
outrageous.
Dirty bastard.
Go on again.
You dirty fucker.
Watch a clever.
What a fucking.
That's it for tonight. I'll be seeing you soon. I hope I won't be seeing you again. From me though. Good night.
Donc ça, c'était pas mal pour l'absurde. Alors, normalement, j'espère, vous avez peut-être reconnu un comédien anglais qui est Kevin Eldon. Donc ce qui était intéressant dans ce travail qu'a pu faire Kevin Eldon, en reprenant tout ce qui a été fait durant ce moment de télévision, parce que c'était un moment de télévision en 1976, eh ben, ça a été, je pense... J'ai pas le temps de le développer ici, mais c'était justement de transformer ce moment de télévision qui peut paraître assez anecdotique finalement, d'autant plus aujourd'hui quand on le revoit avec le recul culturel, sociologique qu'on peut avoir. Mais c'était le fait de justement de transformer ça en performance en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce moment de télévision est devenu une œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est une œuvre d'art qui va être complètement imitée, c'est une œuvre d'art qui va être discutée avec des lectures, avec des pour, avec des contre, avec une étude sociologique qui va être faite tout autour de ce travail. Ensuite, voilà, en tant que roi du punk, je vais découvrir cette loi, le punk n'a pas besoin de roi. Alors, évidemment, encore une fois, il y a une surface Johnny Rotten, on peut imaginer que le fait de cracher, on va dire, sur le fait d'être un punk n'a pas vraiment d'importance, puisque très souvent on voit les punks faire ça. Mais en fait, il y a un vrai discours qui est intéressant dans le point de vue de John Lydon, c'est qu'il va se servir de la télévision, il va se servir des médias télévisés, il va se servir des entretiens pour pouvoir faire passer un message, et puis peut-être sans doute pour pouvoir continuer à faire évoluer son personnage et à gagner paradoxalement tout en créant ce masque, a gagné en liberté créative par rapport à ce personnage de Johnny Rotten, qui a été entre autres créé par Malcolm McLaren. Donc je vais finir peut-être sur, avant de passer à autre chose, j'ai peut-être finir sur ce personnage justement de Johnny Rotten. Donc j'avais étudié le fait que effectivement ça passait par un certain nombre de stratégies, la vulgarité, l'injure, la conduite erratique, la distanciation brechtienne. Mais tout ça, nous n'avons pas du tout de temps pour ça. Donc voilà. Donc je vais venir très rapidement, voilà, sur mon deuxième personnage, qui était Grant Morrison. Parce que j'ai à peu près 10 minutes pour Grant Morrison. Grant Morrison, c'était beaucoup plus compliqué que Johnny Rotten. Grant Morrison, c'était compliqué. Pourquoi ? Ben parce que... D'abord, comme Johnny Rotten, il n'est pas français, il est écossais. Et puis, surtout, c'est du comics. C'était difficile pour moi, j'avais pas forcément envie de le présenter comme ça. Luc et Solveig ont été suffisamment gentils, ou peut-être qu'ils m'ont pris en pitié, pour me dire que ça posait pas de problème de parler de Grant Morrison. L'intérêt du travail de Grant Morrison, ça a été justement également de détourner les codes pour faire quelque chose d'autre. Ça m'a permis aussi de revenir sur l'influence du punk sur...
Shitters and all beginners, lipstick traces and TV dinners, cigar smoke bars and expensive new cars, the Acapulco dive and the media jive. They all survive for the Venus of the Haunted. They all survive for the Venus of the Haunted.
Et on va s'arrêter là pour Spider Leg, donc. Spiderleg, donc, qui est un groupe contemporain, a repris cette chanson qui s'appelle Venus on a Hard Cell, que je ne ferai pas la traduction parce que c'est impossible, vous demandera Tim. L'intérêt, c'est que c'est une chanson qui a été reprise, qui a été tirée d'un comics, en fait. Cette chanson n'a pas été créée comme chanson, mais a été créée comme une chanson imaginaire, créée par un personnage imaginaire qui est John Constantine, hop, qui est voilà, John Constantine. John Constantine, qui est un magicien dans les comics Hellblazer, qui est aussi un film assez épouvantable avec Keanu Reeves, puisque je vous déconseille. John Constantine, qui est magicien donc, et qui est chanteur du groupe Mucus Membrane, 1977 à 1979, et qui a eu un seul tube, qui est la chanson que vous venez d'entendre, qui n'existait que sur le papier, mais qui ensuite a été reprise par un certain nombre de groupes punk, plus ou moins contemporain. Donc l'intérêt, c'était de montrer que s'il y avait eu une influence qui était évidente, dont on a pu parler du punk sur la bande dessinée en France, il y a eu une influence qui est relativement différente en Angleterre et aux États-Unis. C'est que tous ces auteurs qu'on connaît aujourd'hui, donc Alan Moore que j'ai mis en plus haut, parce que toujours de Northampton, qui est sans doute le plus important, Jimmy Delano, qui a écrit Hellblazer, Grant Morrison, Neil Gaiman, Warren Ellis, Mark Millar, Garth Ennis. Tout ça, ce sont des Britanniques, donc on appelle ça la British Invasion. Ça a commencé dans les années 1977, en fait, dans 2000 AD. Tout ça, ce sont des gens qui viennent du punk, en fait. C'est des gens qui écoutent du punk, c'est des gens qui jouent du punk, c'est des gens qui sont dans des groupes de punk. Et ensuite, puisque je dois aller vite, je revenais à ce qui était le plus important, en tout cas en ce qui concernait Grant Morrison, c'était la magie du chaos. Alors la magie du chaos, Grant Morrison, ça fait partie de ces artistes. Il y en a un certain nombre, ça reste quelque chose de relativement peu connu aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que j'en parle au travers de Pin. La magie du chaos, c'est une tradition ésotérique, rituelle qui est née dans les années 1975 avec les Illuminés de Thanateros, avec un certain nombre d'auteurs comme William Burroughs, et Timothy Leary, donc, qui en était membre. La magie du chaos, c'est donc une tradition ésotérique qui va permettre d'agréger un certain nombre d'appareils théoriques communs à la culture underground. Alors, il y a les théories de la sémantique générale d'Alfred Korzybski, il y a la thèse organique et psychologique de William Reich, il y a la fringe science qui a été développée par William Burroughs, il y a les thèses anarchistes d'Hakim Bey qui sont plus récentes. Donc, Grant Morrison va se servir de la magie du chaos pour faire un certain nombre de rituels. Donc, comme j'ai pu en parler la dernière fois, les rituels, ils passent entre autres par les sigils. Écrire un vœu, là vous voyez un chaman travesti qui se masturbe et qui explique ce que c'est que les sigils. Ça, c'est dans les invisibles. Donc, les sigils, c'est, on va dire, faire un rituel ésotérique. On va dire, en caricaturant, vous écrivez un vœu, vous enlevez les voyelles, vous enlevez les lettres qui se répètent et vous formez un dessin après. Ça s'appelle un sigil, en fait. C'est une tradition ésotérique qui vient de l'Angleterre, qui vient du Royaume-Uni, mi-19e siècle, jusqu'au 20e siècle. Grant Morrison va se servir de ces sigils et de ses rituels magiques au sein de ses comics. Donc là, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a là ce qu'on voit dans Les Invisibles, c'est-à-dire il va expliquer ce que c'est que la magie du chaos. Et puis, il y a le fait de s'en servir. Par exemple, il proposait, au moment où les ventes des invisibles baissaient, il proposait de se masturber au même jour, Thanksgiving 1995, pour faire remonter les ventes de son titre. C'est Les Invisibles, qui est ici, que je vous conseille, parce que c'est une BD absolument incroyable. Pendant les 2 minutes qui me restent, je voulais revenir justement sur ce thème-là, en quoi c'était difficile pour moi de parler de la magie du chaos. Bah, parce qu'on a un esprit très rationnel, on est dans la recherche ici, que moi-même j'y crois pas une seule seconde à la magie du chaos, je pense pas qu'on puisse faire émerger des événements simplement en dessinant. Mais l'intérêt, c'est que là, c'était une porte ouverte vers une autre culture. C'était une porte ouverte sur une autre culture, sur une tradition ésotérique, sur une tradition philosophique également, puisque mi-19e siècle, il peut y avoir des frontières encore poreuses entre la philosophie et une certaine tradition ésotérique, et que je pensais que c'était une piste de recherche qui était intéressante, tout simplement parce que Grant Morrison parle de ses rituels comme magie punk. En ce moment, il fait des conférences, il explique ce que c'est que la magie punk, il explique ce que c'est que les sigils, il revient sur l'historiographie de cet ésotérisme et de son travail d'artiste. Ce qui m'intéressait justement, pour conclure peut-être sur le travail qui était fait avec Pine, c'est que ça ouvrait de nouvelles pistes de recherche. Que c'était des pistes de recherche qui n'étaient pas forcément évidentes, parce qu'évidemment, on sourit quand on voit ce genre de choses. Quelqu'un qui est suffisamment naïf pour croire en la magie, c'est évidemment un naïf, c'est quelqu'un qui est idiot. Mais évidemment, quand on y travaille d'un point de vue strictement scientifique, c'est-à-dire en ayant suffisamment de recul pour ne pas avoir de jugement social ou culturel, ce qui est évidemment à interdire dans toute recherche scientifique, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'œuvres qui arrivent, qui émergent, et une nouvelle culture qui se crée au fur et à mesure. Et ça, pour moi, c'était l'un des intérêts de Pine, c'était de m'ouvrir un genre de choses et d'essayer d'ouvrir les autres à ça. Je vous remercie.